Atelier sonore d'esthétique. Station 33. Les fenêtres. Fiction de Louis Fernandez. Lu par Louis Fernandez, Elliot Barthez, Carla Beaumatin, Marion Roger-Ourcade, Adrien Lacabane, Nassim Mayous, François Simon, Alice Lagarde. Groupe de réalisation Stéphane Joly, Alexandre Castan. Les fenêtres. Fiction de Louis Fernandez. Atelier sonore d'esthétique, station 33, École nationale supérieure d'art de Bourges, 2022.
Ces chroniques, ce sont des mots écrits en regardant le ciel et aussi en ne le regardant plus, en regardant la page et le stylo qui écrit à l'encre bleue dessus, en devenant un aveugle un instant. Un aveugle qui voit autre chose. C'est une actualité différente, une actualité qui ne parle pas de la guerre, ni de nouvelles réformes d'un quelconque gouvernement, ni de grèves, ni de faits divers, ni d'assassinats, ni de l'universel vol des pauvres par les riches, ni de la fin du monde, ni de la banquise qui fond de la montée des eaux du réchauffement planétaire. C'est une actualité à côté de l'actualité. En dehors de l'actualité refermée sur elle-même de la télévision et de tous réseaux sociaux, de toute publicité. C'est le ciel comme il bouge, une actualité découverte en écrivant. C'est aussi le ciel d'une ville, Bourges. Je me suis souvenu d'un poème en prose de Baudelaire. C'est un poème dans le spleen de Paris. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toi, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis.
Le ciel.
Le ciel, c'est un paysage. Un nuage est un mont. C'est parfois une marine peinte à l'aquarelle. C'est parfois de plates forêts mauves. Des étendues d'or, de dunes, des crêtes, des clairs obscurs. Une plaine bleue déserte. Un plateau escarpé de nuages comme un champ de coton. Le ciel, vous pouvez y voir une carte. Vous pouvez y voir des continents et des mers. Vous pouvez voir tantôt un nuage Amérique, tantôt le bleu du ciel Atlantique. Les nuages sont-elles une dérive des continents, mais non pas par la force des plaques, mais par la force du vent. Il faudrait inventer toute une géologie des nuages. Parfois, le vent les fait aller plus vite que la marée qui monte. Parfois, quand le ciel est gris uniformément, c'est une mer seule, unique, de gris immobile. Parfois, la lumière d'un soleil caché par un nuage découpe de doré tout le pourtour, tout le littoral, d'un pays éphémère, qui est le cumulonimbus apportant la pluie. Le ciel de Bourges dort, et avec lui dorment tous les habitants de Bourges, du moins ceux qui ne travaillent pas la nuit. Là, dans le ciel, la lumière arrive, et d'abord, avant le soleil. Dans un hôpital, on n'a pas dormi de la nuit, et des ouvriers aussi, et des routiers, de tous ceux qui partent partout dans la France depuis les énormes hangars de logistique du sud de la ville. Ces métiers se font à la lumière des réverbères et des néons blancs, cramant de blanc les yeux fatigués des travailleurs de la nuit. Le soleil se lève et eux, c'est à ce moment-là qu'ils partent dormir. Et eux, les yeux clos, dans leurs rêves, ne voient pas comme au crépuscule du matin, le ciel s'anime, celui qui toute la nuit fut noir.
La mère et l'enfant. Le ciel est bleu et la lumière arrive sur les façades. Derrière des volets fermés, un enfant fait la sieste. Ses mains très petites sont fermées et la lumière en de petits points le tache. Ses yeux fermés, il rêve tandis que l'après-midi se fait. C'est le bleu d'un jour d'été en automne. L'enfant se réveille. Sa mère le regarde et sourit doucement. Elle lui caresse la main. L'enfant va contre elle qui doucement passe la main dans ses cheveux châtains, tout neufs et clairs. Les premiers cheveux d'un enfant. Tout bas, l'enfant prononce le mot « soleil ». La mère se lève. Elle ouvre un volet. La lumière arrive sur le lit de l'enfant, encore ébouriffé par son rêve. Le soleil est passé derrière, de l'autre côté de l'immeuble. On sait qu'il est là encore car les façades des immeubles en face sont encore blanches, d'un blanc éblouissant. Ils sont à un très haut étage. Les ombres des tours s'étirent. Le soleil est encore jaune. Les cheminées sont d'autres tours sur les tours, plus petites et plus nombreuses. Les ombres pareillement s'étirent. Les toits de Bourges sont des formes géométriques, des triangles, des trapèzes, des polygones divers. Et leurs ombres, pareillement. Ces 1000 cheminées sur les toits. De bleu, le ciel est blanc. Il y a des brindilles de paratonnerre et deux sapins. L'enfant est descendu du lit. La mère regarde par la fenêtre. Elle a vu quelqu'un dans l'immeuble en face. Elle se tient cachée. L'enfant la voit faire. Il ne peut pas voir à cause de sa petite taille qui elle regarde si attentivement. Il s'approche d'elle et s'agrippe aux franges de sa robe.
L'homme qui fume au balcon. Depuis l'immeuble en face, il n'a pas vu qu'elle le regardait. Contrairement à la mère et son fils, le soleil arrive droit sur lui. Il éblouit. Il est sur le balcon. La façade face à lui est toute d'ombre. Il écrase un mégot dans un cendrier. Il rentre. À 7 heures, le soleil arrive presque à l'horizontale. Dans la foule des toits, il reste quelques carrés scintillants. Le soleil modèle la cathédrale. L'homme est dans l'ombre de son intérieur. Il est parti à la douche, seul, dans sa salle de bain. Tandis qu'il est dans l'eau chaude, la porte d'entrée s'ouvre et se claque. Un pigeon a battu des ailes. On entend quelqu'un sauter sur un matelas. C'est elle. Il sort, il se sèche. Elle est toute vautrée dans les draps. Sa jupe remontée laisse voir sa culotte blanche et ses jambes fines, d'or blond comme ses cheveux. Elle regarde son portable qui bleuit son front. Il voit son visage qui ne se soucie nullement de sa présence. Il a noué sa serviette blanche autour de sa taille et il arrive sur elle, sur les jambes. Elle montre la plage. Sur l'écran qui défile, C'est des images de vacances, encore et encore, les côtes de la Grèce. Tandis que nous sommes tous rentrés, soupire-t-elle, elle se dort encore dans les îles des Cyclades et dans la mer Égée. Sur le lit, elle se retourne. Elle écarte les jambes sans conscience de le faire. La culotte et la boursouflure du sexe sont exhibées. La mer, et la mer, et encore la mer. Elle enfile des écouteurs. Elle l'ignore bien. Elle l'ignore tout à fait. Il est parti allumer la hotte et faire chauffer de l'eau en silence.
Les ombres.
La marée d'ombre a englouti l'appartement. Et l'appartement au-dessus aussi. Le bâtiment d'ombre a été englouti. Les dernières cheminées se noient. Un clocher élançant sa croix sombre. Et le haut des deux sapins et d'un peuplier sont les dernières traces du jour. La cathédrale a encore quelque temps à vivre de soleil qui bientôt s'éclipse, dernière proue de la ville dressée dans l'océan.
La vieille dame.
Un dernier carré de lumière. Dedans, une vieille dame brode assise sur une chaise. Elle regarde avec une loupe le motif à reproduire. C'est une corbeille de fruits. Avec du fil rouge, elle remplit l'intérieur d'une pomme rouge encore vide. La pomme se remplit tandis que le soleil tombe. Elle souffle. Elle pose sa broderie sur la table et lève les yeux vers le téléviseur et vers le désert du Sahara. C'est un documentaire animalier. Avec la télécommande, elle augmente le volume pour entendre la voix off. Elle regarde un lynx courir dans le sable. Et comme le lynx, un chat blanc est apparu soudain au-dessus de la nappe à carreaux rouges. Le chat ne miaule pas. Il se tait. Il a les yeux verts. Il ne monte pas sur la table, il sait. Que regarde-t-il? Il doit regarder le mur et la dernière ligne de lumière disparaître. Il regarde la vieille dame nullement. Il est en plein dans le rectangle du téléviseur. C'est passé à la publicité. La dame souffle à nouveau. Elle regarde la place vide à côté d'elle. Dans son intérieur, il y a des vases sur des napperons en dentelle, avec peint dessus des reproductions de tableaux de Millet. Le clocher est tout à fait dans l'ombre. La dame a les cheveux blancs et les mains tachées des taches de la mort. Elle regarde au-delà de la chaise la poussière sur les plinthes. Le chat pose une patte sur la table et griffe la toile cirée. La dame râle. Les chats ne regardent jamais personne, elle pense. Elle s'est levée, fermée les volets. Elle pense encore à son âge. À quoi ça sert encore de penser? À rien, se dit-elle. À attendre la mort. Elle est fatiguée de penser.
Les immeubles roses.
Je vois des immeubles roses, des immeubles de cire et de quadrillage. Je sais qu'en allant par là, on peut rejoindre la Sologne, la forêt, la grande route toute rectiligne qui mène au nord comme si on avait tiré un trait avec un double décimètre, comme un enfant appliqué le fait, comme les colons ont fait délibérément en Afrique, par exemple. Je pense aux frontières du Mali, de la Libye, à tous les pays du Sahara.
Le peintre.
Il voit la pluie et l'entend, et le vent. Il pleut sur le vasistas. Il peint un visage, et des arbres verts autour, et des plaines. Il est dans l'immeuble en haut de telle sorte qu'il voit tout le dessus des toits. C'est sur la toile un jardin. Le visage peint est le point culminant d'un corps. Il ne voit plus le visage dans son ensemble, mais c'est parti, la sombre cavité d'un œil par rapport à la paupière bombée, plus claire de ce même œil. Il voit un coin de mâchoire par rapport à la chevelure ici presque noire. Il voit des rapports. C'est ça, la vision. Il sort ce visage doux, tandis qu'il peint dans le bruit de la pluie.
2000 visages vus déjà.
Et le jardin vert d'où?
Peut-être du coucher du soleil rose qui rend le vert plus vert encore.
Et ce buste?
De toutes ces explorations, dans les grottes noires du corps, de toutes ses excursions à l'aveugle dedans. Il ne veut plus voir sa peinture. Il met sa toile contre le mur, il est exténué. Il se dit prêt à tout abandonner. Il en est sûr maintenant. Il n'est pas peintre. Il s'allonge dans son lit, contre le mur. Tout un tas d'idées viennent se bousculer dans sa tête. Ça fait un bazar monstre. Il ne veut plus rien savoir, plus voir. Il veut dormir, il ne dort pas. Il veut oublier, il ne se souvenait plus, comme peindre, ça fait mal. Qui me demande de peindre après tout ?
Personne, répondit-il à lui-même. Puis voyant qu'il commençait à se parler tout seul, il poussa un râle en enfonçant sa tête dans son oreiller, comme pour s'étouffer, ne plus entendre, car il savait bien que c'est vain et tourner en rond que de se parler à soi-même. Ainsi, il voulait mourir.
Et comme il ne mourut pas, au bout d'un moment, il sortit. Dans la rue, il marchait sans trop savoir vers où aller. Il erra. Il passa sous une fenêtre et entendit une mélodie sortir. Il fut surpris par elle. Il ne vit plus alors la rue. Il écouta la musique, cet heureux hasard nommé musique. Puis continuant son chemin, la musique était derrière lui, puis à force de s'en aller, il ne l'entendit plus. Il sourit.
La violoniste.
La musique qu'il entendit venait d'un appartement dans lequel une violoniste jouait. Depuis son enfance, elle a suivi les cours au conservatoire de la ville. Elle a acquis la technique, mais là, à 7 heures de l'après-midi où elle jouait, la grâce la frappa, elle l'oublia. Et là, elle joua de telle sorte qu'elle fit pleurer son professeur qui, bien que plein de gammes et de notes, pleura, alors qu'il n'avait pas pleuré au son d'un violon depuis un siècle. Elle cessa de jouer. Elle regarda dehors le gris du ciel et chercha dans ce gris la pluie du ciel invisible. La pluie entrait dans l'appartement, elle ferma la fenêtre. Elle posa son violon et traversa en silence le salon où sont silencieux les meubles et son professeur. Il est de dos dans l'encadrement d'une fenêtre ouverte. Il pleut sur lui. Le voit-il ? Il lui cache sa souffrance et la plaie ouverte à l'entendre. Elle fera le tour du monde, les plus grandes villes, des concertos joués par elle en soliste. Il ne dit rien. Elle sort de la pièce.
L'insomniaque.
Partout, noir, nuit, désespoir des insomniaques face à ce temps devant eux à passer. Ce temps seul à chercher, chercher, chercher le sommeil, les yeux fermés. Il voit des lueurs multicolores. Il entend son cœur battre. Il se tourne et se retourne. Elle dort dans ses cheveux blonds, le visage tout entier dans cette auréole. Il essaie de fermer les yeux, d'avoir les yeux fermés longtemps. Essaie de dormir ainsi, de ne plus penser.
La vieille dame, épilogue.
Dans la nuit du matin déjà, derrière les dentelles d'un rideau, le bleu du téléachat. Elle se réveille seule dans son lit de place. La place est vide dans le lit à côté d'elle. La place est vide à côté de lui dans la tombe. Elle est dans un drôle de moment de sa vie, séparée de lui comme lorsqu'elle était encore enfant. Ils étaient mariés depuis 50 ans. Elle recommence à broder. Elle a fini la pomme, fait la corbeille en osier. En face d'elle, accrochée au mur, encadrée, des broderies déjà finies. Comme il aimait l'Italie follement, elle lui avait brodé parmi toutes ses broderies un paysage de Toscane. C'était fini pour toujours les voyages. Elle y songeait, fini pour toujours. Ils avaient tout fait de l'Italie, le nord, le sud, Rome, Florence, Venise, etc. et d'autres régions inconnues aux oreilles de leurs petits-enfants. Nous sommes allés aux Pouilles. Aux Pouilles ? C'est là, elle leur montrait, sur la carte de l'Italie. Puis, les enfants couraient oublier à toute vitesse dans les couloirs ce qu'elle leur avait dit. Et machinalement, quand maintenant, seule dans le couloir, elle marchait, elle passait sa main sur les coins des meubles comme pour les polir. Car que de fois fut-elle épouvantée quand les têtes des petits marmots à toute vitesse tanguaient tout près, prêtes à s'ouvrir et les enfants pleuraient. Les oiseaux viennent à la fenêtre picorer des grains qu'elle achète et attache soigneusement sur le rebord. Le soleil arrive sur elle. Il vient de se lever. Il vient d'émerger de la terre. Ici, on a le droit d'oublier un instant la science et de croire la terre immobile et plate, et regarder le soleil qui commence sa course au-dessus de nous. Dans la ville, on entend le bruit d'un avion passer au-dessus. On le cherche. Où est-il ? On le voit soudain sourdre d'un immeuble, le voilà qui vole, très bas, comme un oiseau aux ailes gigantesques. Il fend le ciel et secoue les arbres. La vieille dame qui brode n'a entendu qu'un lointain pet de mouche. Elle pose sa broderie et se lève, va dehors arroser les cyclamens de son balcon. Elle voit le ciel. On dirait qu'il est plus fait de nuages que de ciel. En face d'elle, elle ne peut pas le voir. Quelqu'un la regarde et prend des notes. Pourquoi ? Il ne sait pas. Peut-être parce qu'elle est seule et que seule, elle a l'air d'une reine, et qu'il faut bien un jour écrire les histoires de ces royaumes cachés à jamais qui meurent et qui sont faits de ces gens qui n'ont rien dit toujours.
Atelier sonore d'esthétique. Station 33. Les fenêtres. Fiction de Louis Fernandez. Lu par Louis Fernandez, Elliot Barthez, Carla Beaumatin, Marion Roger-Ourcade, Adrien Lacabane, Nassim Mayous, François Simon, Alice Lagarde. Groupe de réalisation, Stéphane Joly, Alexandre Castan. Les fenêtres, fiction de Louis Fernandez. Atelier sonore d'esthétique, station 33, École nationale supérieure d'art de Bourges, 2022.